tous. Nous voici de nouveau ce matin avec vous pour cette émission mensuelle qui est reprise par Radio Présence à Figeac, l'heure du carillon sur CFM Radio. Nous sommes heureux et puis ce matin nous sommes la petite équipe habituelle et chacun va donc maintenant se présenter à nouveau, mais vous finissez par nous connaître.
Michel Mombressos, bonjour.
Bonjour, je suis Émilie.
Bernard.
Et Didier, donc, qui anime cette émission. Je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons parler de Noël. Bon, le temps s'y prête, il est vrai, nous sommes au mois de décembre. Et c'est vrai que nous sommes dans une période aussi où l'actualité quotidienne nous agresse tout le temps par des mauvaises nouvelles. Or, pour les croyants, Noël est une bonne nouvelle. Alors, nous allons parler de cette bonne nouvelle. Parce que les bonnes nouvelles, tout le monde en a besoin. Les croyants, bien sûr, mais les autres aussi. Noël, c'est cette quête de bonheur. C'est cette nostalgie de nos enfances ravivées. Et puis, nous le savons, à Noël, il y a toujours ce qu'on appelle la trêve des confiseurs au moment des guerres. On a connu des épisodes pendant la Première Guerre mondiale où les gens, au moment de Noël, faisaient des signes et des gestes et posaient des gestes de paix et d'amitié. Jouer au foot ensemble, voilà.
Mais pas partout.
Donc, c'est une aspiration pour tous, Noël, à vivre la paix. Et c'est vrai que pour les croyants, le Christ qui vient, c'est le prince de la paix. Une aspiration à réaliser la paix dans la famille, dans les villages, dans le monde. Et donc, nous allons essayer de développer ensemble, nous sommes tous croyants autour de cette table, cette idée de Noël, mais avec le souci aussi de nous ouvrir aux autres, parce que Noël, c'est une fête pour les croyants, c'est pas la fête la plus importante pour les chrétiens.
Mais la plus populaire.
Mais c'est la plus populaire, c'est vrai, et c'est celle parce que, comme on dit, c'est une fête de la tendresse, de l'enfance, c'est une fête de la nouveauté, d'un départ. Donc, nous sommes là, tous ensemble, pour exprimer cette bonne nouvelle qui nous habite, cette quête du bonheur. Et alors, Noël, on le voit dans nos rues, c'est des symboles. Des symboles. Ce sont les symboles de la lumière, des sapins. Ce sont les symboles des santons, des crèches, ce sont les symboles de l'étoile, la mère et l'enfant. Tout cela qui nous parle de Noël. Que faisons-nous de Noël? Alors, nous allons, les uns et les autres, aborder ces questions. Et je crois que c'est Bernard qui va commencer en nous parlant...
De l'histoire, peut-être.
De l'histoire, oui. Un peu de Noël, voilà.
Parce que... Il faut dire que le 25 décembre a été choisi seulement au 4e siècle. Parce que on ne sait pas exactement le jour où il est né, l'enfant Jésus. Et donc, il faut savoir que l'empereur Constantin a voulu remplacer une fête païenne, les Saturnales, c'est-à-dire les fêtes du dieu Saturne, célébré au solstice d'hiver, parce que le 25 décembre, c'est le moment où les jours commencent à allonger. Hein. Donc, les Saturnales, il faut bien le dire, c'était une fête très païenne. C'était la licence, c'était les orgies, carrément. Hein. Donc, mais c'était aussi la fête du dieu soleil. Et on est passé, Constantin était un petit malin, il a transformé la fête du soleil en la fête du soleil de justice. Donc, pour peut-être justement rassembler tout le peuple romain, je sais pas, hein, il y avait cette idée-là sûrement. Donc... alors si on poursuit au Moyen Âge, il a fallu attendre quand même pour les crèches. Il a fallu attendre François d'Assise, hein, oui, qui a inauguré les crèches vivantes. Et ça existe encore aujourd'hui, je crois, à Peyrus-le-Roc, ils font une.
Oui, tout à fait. Hein, Peyrus-le-Roc, on fait une crèche vivante le dimanche 20 décembre.
Ah voilà.
Oui, parce que, si vous voulez, c'est pareil pour nos vitraux, c'est pareil pour les tympans de nos églises et les frontons. Les gens ne savaient pas lire. Alors donc, la vie religieuse, les épisodes de la vie religieuse étaient comme ça, inscrits comme sur une bande dessinée que les gens pouvaient voir et comprendre. Et dans les églises, on célébrait, on faisait ce qu'on appelait des mystères, c'est-à-dire des petites pièces de théâtre sur le parvis des églises pour faire comprendre aux gens les épisodes bibliques, les épisodes de l'Évangile. Et donc, François d'Assise a voulu mettre en musique et en spectacle un peu cet épisode de la naissance de Jésus. Et donc, il a fait les premières crèches vivantes. On est au XIIe siècle.
D'accord. Mais alors, les symboles quand même les plus courants, moi je dirais que pour moi, c'est la ville éclairée. Noël, c'est la lumière, les guirlandes dans les églises, les enfants émerveillés devant les vitrines décorées.
Les repas de famille.
Les repas de famille, bien entendu.
Oui, parce que c'est surtout la fête de la famille, Noël. Les retrouvailles.
Alors voilà, c'est la fête de la famille. C'est-à-dire que il y a un lien entre la fête chrétienne et la fête, je dirais, humaniste. Parce que finalement, notre République laïque s'est souvenue que, bien, 2000 ans de civilisation chrétienne, on ne pouvait pas quand même la gommer comme ça d'un trait de plume. Et donc, on mélange à la fois les cadeaux pour les enfants, la fraternité, la réconciliation dans les familles où parfois, quand même, on a été blessé par telle ou telle parole. On se retrouve autour du repas et on oublie ça, hein, à Noël.
C'est une trêve. C'est une trêve.
Absolument, c'est une trêve. Alors,
donc Noël, c'est cette fête-là qui parle, comme je le disais, au cœur des chrétiens, des croyants et des autres. Noël parle à tout le monde, à tout le monde. Et donc, le mot Noël, d'ailleurs, c'est quelque chose de la nouveauté qui nous vient par cet enfant qui vient de naître. Et donc, c'est une promesse de paix, c'est une promesse d'harmonie, une promesse de bonheur. Mais un bonheur qui, paradoxalement, une paix qui nous tombe pas comme ça directement. C'est une promesse que nous avons à construire. Voilà. C'est une mise en route. Il nous faut partir à la quête du bonheur. Il nous faut construire la paix. Il nous faut rechercher l'harmonie. Elle ne nous tombera pas du ciel comme ça, comme vient cet enfant. Cet enfant vient parmi nous pour nous inviter à nous mettre en route, à marcher avec lui à sa suite pour construire cela. Alors, si vous voulez, on va écouter un peu. Tu veux écouter, d'abord tu veux parler, alors avant la musique.
Excusez-moi, mais il y a d'autres symboles qui me paraissent importants. À Noël, on pense au sapin quand même. Et le sapin, il a une signification aussi spirituelle. En particulier, je crois que les protestants insistent là-dessus, c'est le symbole d'immortalité. Des racines profondes, il s'élance vers le ciel, il reste vert pendant tout l'hiver. Et même, tu nous avais raconté que autrefois on pendait au sapin des pommes et des poires.
Voilà, si vous voulez, la tradition des boules de Noël et des décorations de sapin vient de là. Cet arbre restait vert en plein hiver, donc il était le signe que la vie n'était pas morte. Et la vie n'était pas morte, et donc on le signifiait aussi en pendant des pommes, qu'on a un hiver comme ça, au sapin. Et puis voilà qu'une année, alors je ne sais plus laquelle, une année, il n'y aurait plus de pommes. Toute la récolte avait été gâtée ou mangée, enfin il n'y avait plus de pommes. Et c'est là qu'on a pensé à pendre des boules, et ça s'est fait du côté de Baccara, des boules en verre. Et donc à partir de là, les boules de Noël ont existé. Alors qu'au départ, c'était le signe de cette nourriture qu'on allait encore avoir, même au cœur de l'hiver.
Oui, et dernière chose. Quand on passe à Noël, on pense à la mère et à l'enfant. Et on pense à Marie. Parce que Marie, mère de Dieu, Théotokos, hein, pour les orthodoxes, elle allaite Dieu. Un Dieu homme, on en parlera tout à l'heure avec le fameux mystère de l'incarnation, mais un Dieu qui connaît le doute, la fatigue, les tentations, c'est quelque chose d'inouï, et c'est une... moi, ce qui me frappe, c'est que le culte de la Vierge, il ne s'agit pas d'une déesse, mais quand même, ça rééquilibre peut-être la Trinité, qui est bien masculine. C'est... Non, je sais pas si je dis des bêtises théologiquement, parce que moi, j'ai pas fait le séminaire, mais quand même...
Oui, alors, je dirais pas tout à fait comme toi, parce que c'est vrai que dans les prophètes, on voit déjà aussi qu'il y a cette force de Dieu manifestée dans une paternité, et il y a aussi cette miséricorde et cette tendresse manifestée avec des sentiments maternels, c'est écrit dans les prophètes.
C'est la maternité de Dieu,
voilà.
Quand même, Noël.
Mais la Vierge, c'est encore autre chose. La Vierge, elle nous rend Dieu proche parce qu'elle est une mère, une maman. Et donc, c'est pour ça que spontanément, les gens se retournent très facilement vers elle, très facilement, en disant elle est plus abordable, elle peut intercéder pour nous comme une maman protège son enfant. Alors ce coup-ci, on va écouter de la musique. Absolument. Voilà la première plage musicale. Fête des enfants. Mais alors, c'est vrai que cela vaut pour nos pays. Dans l'Est, on fêtait la Saint-Nicolas, et encore aujourd'hui, dans tous les pays de l'Est. Et donc, est arrivée cette confusion que nos frères protestants, en n'ayant pas le culte des saints, un pasteur a dit, eh bien, on va faire le Père Noël, voilà. Et on va apporter un cadeau aux enfants. Parce que c'est vrai que Dieu, à Noël, nous fait cadeau de la vie de son Fils pour nous amener à la vie pour toujours. Mais ça, c'est des croyants qui le disent. Mais c'est pour ça qu'il y a cette ambiance de cadeau à Noël. On offre des cadeaux de vie pour signifier un peu cette amitié, cette affection. Et donc, un protestant a voulu faire le Père Noël, donc il a fait le Père Noël, qui au départ était habillé en vert. qui est habillé en vert, un joli Père Noël.
Comme celui du Secours Populaire.
Comme celui du Secours Populaire.
Et maintenant, il est rouge. Et pourquoi il est rouge?
À cause de Coca-Cola. Voilà. Parce que Coca-Cola a récupéré ce Père Noël en vert et l'a fait en rouge. Et donc, vous voyez que le Père Noël n'a ce nom de Noël qui est un nom chrétien. C'est vrai que tout le monde, on parle de se démarquer de l'esprit chrétien, mais tout le monde prend des congés pour Noël et tout le monde appelle ce jour-là Noël. Vous voyez, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, et ça c'est une petite parenthèse comme ça. Donc voilà, les cadeaux viennent de là. Mais Noël, il y a d'autres choses encore. Il y a l'étoile. L'étoile. Il faut savoir que nous, les chrétiens catholiques romains, nous fêtons la naissance de Jésus le jour de Noël, le 25 décembre, avec cette fête qui a été christianisée des Saturnales, c'est vrai. Les orthodoxes ne fêtent pas la naissance de Jésus le jour de Noël. Ils la fêtent l'épiphanie, c'est-à-dire le jour où le Christ, Jésus, l'enfant Dieu, a été révélé à toutes les nations par la visite des mages. Voilà, les orthodoxes fêtent la naissance de Jésus à l'épiphanie. Donc, vous voyez, il y a des petites, comme ça, sensibilités différentes. Mais pour nous, c'est tout ce temps de Noël qui est important.
Et je crois même qu'il relie au baptême dans le Jourdain, non?
Voilà. Alors, c'est le temps de Noël. Le temps de Noël dans la liturgie, c'est bien sûr la naissance, c'est la Sainte Famille, c'est l'épiphanie. Et c'est le baptême de Jésus au Jourdain qui recommence le temps ordinaire, voilà.
Et ces rois mages, l'image des rois mages, c'est très beau parce que c'est un roi africain, c'est un arabe qui viennent visiter un enfant juif.
Oui.
C'est vraiment un beau symbole dans la crèche, ces rois mages.
Alors, si tu veux, ça c'est la tradition, la Bible nous dit rien. De ces savants venus derrière.
Balthazar
Voilà, Gaspard.
Et Gaspard, ouais.
Voilà. Mais on nous dit rien dans la Bible de ces noms-là. Ça, c'est pas, ça dépend pas de l'écriture. Ce ne sont pas des données scripturaires. Mais c'est vrai que la tradition a voulu en faire un jaune, un noir et un arabe pour montrer que justement, le salut de Dieu est offert à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur race.
Toutes les nations convergent vers Bethléem.
Voilà, toutes les nations convergent vers Bethléem à la lumière de l'étoile. Voilà, c'est pour ça qu'à Noël, il y a plein d'étoiles et de choses comme ça. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui font que l'on fête Noël. Mais Noël s'inscrit aussi dans une longue tradition de l'Écriture, justement, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et là, nous voulons parler un petit peu de ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme. Ça vient de quoi? Je ne dis qu'un mot comme ça, et puis après, on parlera plus en détail. Dieu a toujours voulu faire alliance avec l'homme qu'il avait créé. Mais l'homme avait du mal à percevoir ce Dieu qui était lointain. Si vous me permettez cette image, eh bien, à Noël, Dieu quitte le ciel de son Club Med, là, pour venir planter sa tente sur terre. Et en Jésus, Dieu prend figure, visage, aspect et vie humaine complètement. Et il vient parler le langage de l'être aimé avec les mots de l'être aimé. Voilà, à Noël, c'est ça. C'est Dieu qui se fait proche. Dieu qui se fait proche, non seulement pour parler la même langue que ses créatures, mais en même temps pour vivre au milieu de ses créatures.
Oui, alors, pour moi, prof d'histoire, la venue de Dieu dans l'histoire, c'est un événement fondateur. En tout cas, disons, vu de l'Occident, peut-être effectivement dans l'islam c'est autre chose, encore qu'il y a un lien entre Jésus et le Coran, comme vient de le souligner un livre là qui vient de paraître. Donc c'est un événement fondateur, mais comme tu le disais, c'est un commencement. La force du commencement, c'est important, mais il y a un avant et un après. Parce que moi, j'ai lu dans Saint Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on revient là dans le mystère des origines, au prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Donc, il y a une relation entre le Père et le Fils. la filiation qui fait l'égalité entre le Père et le Fils, mais ça évoque aussi « je suis », ça évoque Moïse et le buisson ardent, l'alliance entre Dieu et l'homme. Donc, ça, c'est à la fois Dieu dans l'histoire, mais aussi Dieu dans l'univers. Mais je dois dire quand même que, par rapport à la mythologie grecque, on n'a pas le Jupiter, maître de l'univers, qui lance des éclairs. C'est un dieu fragile, un dieu enfant. Donc, ça change tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, là.
Mais vous savez, vous tous qui êtes parents, papa, maman, ici, vous le savez, plus l'amour est puissant, plus il est fort, plus il est vulnérable. Et donc, Dieu, qui veut montrer la puissance incroyable de son amour, la montre dans la vulnérabilité d'un enfant, d'un nourrisson. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et Noël, c'est ce Dieu si loin qui se fait proche, qui se fait aimable et qui se fait... et qui se donne pour être aimé, voilà, et pour nous inviter à aimer. Dieu loin se fait proche pour être vraiment, vraiment au cœur de cette création qu'il a voulu. Et c'est vrai qu'on a toujours, et on le voit bien aujourd'hui avec la COP21, on a toujours introduit la disharmonie dans la création par notre attitude, par tout ce que l'on fait. Eh bien, voilà que ce nouveau départ, c'est pour réintroduire une harmonie nouvelle dans la création. C'est pour retrouver un peu le sens original de la beauté des choses et de la grandeur des choses.
Oui, mais je dirais, moi ce qui me frappe, c'est que il y a un lien entre la nudité de l'enfant de Noël et la nudité du crucifié. Parce que finalement, si les apôtres sont passés du prophète, du Messie, au Fils de Dieu, c'est à cause de la résurrection. Et donc c'est là que l'enfant Dieu, pour un peuple qui a la nuque raide, qui avait du mal à comprendre ce qui se passait, c'est la résurrection qui leur a fait comprendre qu'il s'agissait de Dieu.
C'est pourquoi, c'est vrai que tout à l'heure je disais, Noël, c'est pas la plus grande fête chrétienne, et toi tu as douté, mais c'est celle qui touche le plus de par cette proximité de la famille et de l'enfance. Mais la grande fête chrétienne, c'est la résurrection. Il n'y aurait pas Noël sans la résurrection, mais comme il n'y aurait pas de résurrection sans qu'il y ait eu la naissance de Jésus, évidemment. Mais le grand saut dans la foi, c'est pas la naissance de Jésus, c'est le fait que Jésus soit mort et ressuscité. Et d'ailleurs, nous, pour le signifier, pendant la veillée de Noël, dans ma paroisse, on va déposer, pas l'enfant Jésus dans la crèche, on va aller déposer une croix au-dessus de la crèche, pour signifier qu'il y a ce
lien.
Entre Noël et Pâques, voilà. Donc c'est uniquement pour expliquer cela aux gens.
Puis une question quand même qui se pose, c'est le fait que Dieu lui-même s'est incarné dans un bébé, dans un enfant. Alors ça veut dire que il y a une femme qui a conçu en son sein un être, et il n'y a pas eu, pardonnez-moi, mais il n'y a pas eu de fécondation mâle. Alors ça, qu'est-ce qu'il faut penser de cela pour ceux qui ont du mal à l'admettre?
Voilà, alors c'est vrai que dès l'origine, l'Écriture nous dit que Marie est vierge. C'est une jeune fille qui a porté le Fils de Dieu. La puissance de Dieu a voulu se révéler. Et je crois que cet événement veut signifier vraiment que Jésus est Fils de Dieu. À la fois, il est pleinement homme, né d'une femme, mais en même temps, il est né d'une manière particulière, comme dit le credo, engendré, non pas créé, tu vois, voilà. Il est né d'une manière particulière pour signifier vraiment qu'il est Dieu. Alors là, c'est pareil. C'est dans la foi qu'on l'accueille. Et que cela, dans nos esprits rationnels, puisse créer des questions, des doutes, même des refus, pourquoi pas? Parce que c'est une question de foi. On l'accueille comme ça. Mais jamais on ne pourra aller montrer des preuves scientifiques, des preuves. C'est une, c'est vraiment, vraiment un langage de la foi.
Mais la foi est comme l'amour, ça ne se prouve pas, ça se
voilà,
vit.
Ça se vit, voilà, ça se vit.
Donc il est pas fils de Joseph, il est fils par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, effectivement, ça peut heurter, des esprits
rationnels,
des esprits tout à fait rationnels, oui. Mais moi, ça m'intéresse parce que finalement, quand on se met à la place de Joseph, ça montre la force de l'adoption. Ce qu'il faut voir dans la Sainte Famille, c'est que lui, il a été l'éducateur.
Après avoir douté quand même. Ce qui est normal, ça prouve qu'il était homme.
Absolument. Donc, oui. Oui, moi, j'avais un copain qui déconnait pas mal, qui me disait « Joseph, le pauvre, c'est le patron des cocus. » Ouais,
alors, c'est pas gentil.
C'était pas gentil. Mais moi, cette figure de Joseph, dont on parle peu, on dit souvent qu'il était veuf, qu'il était vieux,
qu'il... Ah non, ça, on ne dit pas qu'il était veuf, qu'il rien. Alors là, ça, c'est pas scripturaire. Voilà, le problème, c'est que l'on mélange ce qu'on appelle le canon des Écritures, ce qui est révélé, avec tout un tas de choses qui appartiennent à des écrits apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire des textes qui parlent de Jésus, qui parlent de la Sainte Famille, qui parlent, mais qui n'appartiennent pas à la Bible telle qu'on l'a aujourd'hui. Et ça s'est fait au cours des siècles où on a fait cette réflexion, parce que ça n'apportait rien de plus. Et là, dans ces textes, alors vous savez, vous avez entendu parler de l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas, puis il y en a plein comme ça. Donc, qui ne sont pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle des apocryphes. Donc, des écrits qui n'appartiennent pas au cursus actuel des Écritures sur lequel on s'appuie. Et là, on lit un peu de tout. C'est ainsi, c'est dans ces textes-là qu'on lit le nom des parents de Marie, Anne et Joachim, qui ne sont pas du tout dans la Bible. Voilà, mais la tradition, au fur et à mesure, parce que on a bien besoin de ces médiations, nous, dans nos esprits, nos petits esprits, pour entrer un petit peu dans une démarche.
C'est l'imagination. Et puis,
voilà, c'est ça.
Travail.
Oui, on a besoin de ça. Alors, je vous rappelle, chers amis, que vous êtes sur CFM Radio, que vous écoutez cette émission. On va faire une petite pause musicale de nouveau.
Sur Radio Présence
et que
aussi.
Cette émission passe aussi sur Radio Présence à Figeac. Voilà.
Elle s'appelle l'heure du carillon. Thank you.
Voilà, donc nous sommes, pour préparer ce Noël, et comme tous les ans, nous sommes dans le temps de l'Avent. Mais l'Avent avec un E, c'est-à-dire le temps de l'avènement que l'on prépare. C'est pas le temps de l'Avent comme un en avant au rugby, hein, ou devant, non, c'est avènement, avant avec un E. Et pendant 4 semaines, on se prépare, et puis il y a des textes qui nous amènent petit à petit à mieux connaître Jésus. Et le début de l'Avent, il y a un texte merveilleux du prophète Isaïe qui nous dit « Voilà ce que vous pouvez accueillir dans votre vie en accueillant Dieu qui se fait enfant. » Et il donne un peu ce visage de cette création nouvelle qui sera inaugurée par Jésus si on veut bien le suivre. « Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. » Vous vous rendez compte si c'est vrai dans nos sociétés, et quel boulot nous avons à faire pour incarner cela à la suite du Christ. C'est terrible. Et alors, ensuite, il donne une vision. Moi, toujours, je prends ça avec des enfants parce que ça me rappelle un peu Walt Disney, tu vois. On pourrait faire un dessin bucolique de ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble et le petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Voilà, il n'y aura plus de mal ni de corruption. Voilà cette création nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous faut faire, nous, maintenant, en accueillant ce message, en accueillant Jésus qui vient porter, non seulement le dire, porter, mais le vivre au milieu de nous, ce message? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour vraiment le rendre possible?
Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire?
Ah ben voilà, mais c'est à chacun de nous d'y répondre. Et...
Moi, je dirais que Noël est tourné vers l'avenir. Alors, toi, tu l'as tourné vers l'Ancien Testament, vers Isaïe, vers les prophètes, effectivement, qui annonçaient déjà pratiquement le Messie et qui annonçaient la Vierge qui aura...
Okay, voilà, c'est ça.
Mais Dieu... Enfin, Noël, c'est un temps d'espérance. C'est devenir ce que nous sommes véritablement. La vérité se trouve dans l'avenir. D'ailleurs, Isaïe dit, puisque tu en parlais, moi j'ai noté ça, « Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne ressassez pas !» C'est-à-dire que c'est le renouvellement qui est important aujourd'hui. Alors moi, je vois ça un peu avec les yeux du pape François, parce qu'il bouscule. Il dit... l'année prochaine, ce sera, même ça commence dès
ça
maintenant.
Y est, c'est commencé, oui.
C'est le temps de la miséricorde.
Oui.
Depuis hier.
Et face aux événements actuels, je pense à ce qui s'est passé à Paris le 13. Je pense à la barbarie qu'on a vue pratiquement à la télévision. Si on se tourne pas vers la fraternité, vers une évolution. Le nouveau-né, c'est une promesse. Alors, elle peut jaillir de nous, si on ne veut pas être des vieux schnocks, si on ne veut pas être des vieux. Oui, parce que effectivement, moi j'entends des collègues qui disaient « Purée, où ça va l'école aujourd'hui ? C'est un désastre, ils ne savent plus rien. » Bon, alors, on disait ça, je crois, on a toujours dit ça. Hein.
Depuis Charlemagne.
Je crois que c'est ce qu'on peut dire peut-être quand même, parce que c'est vrai que si les préceptes religieux, notamment ces préceptes de paix, d'amour, étaient retenus, étaient vécus, on ne verrait pas ce que l'on voit là. En ce moment, on a l'impression qu'on vit des événements qui sont extraordinaires. Il faut savoir que s'ils sont extraordinairement néfastes et négatifs, ils existent depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. On s'est tout le temps battu. Alors c'est pas je ne veux pas faire l'apologie bien quoi. Je veux simplement faire remarquer qu'il faut garder courage et garder espérance.
Alors.
Et que, oui, je t'écoute.
Oui. D'ailleurs, dans le texte d'Isaïe, les verbes sont au futur. Mais il nous appartient, vous savez, comme disait la fin du conte Émilie Joly, il faut faire attention, hein, Il faut que le rêve dévore ta vie pour que la vie ne dévore pas ton rêve. Donc nous avons cela à construire. Hein. C'est un rêve que nous pouvons construire. Le futur de Dieu, c'est pas un futur humain utopique. Je veux choquer personne. Ce n'est pas le grand soir. Hein. C'est l'avenir de paix, l'avenir finalement dans l'harmonie, ce pourquoi nous sommes faits. C'est ce que tu disais, nous sommes faits pour la paix, pour le bonheur, pour l'amour. Alors c'est vrai aussi, et tu as raison, qu'il y a aujourd'hui une fascination qui s'exerce au spectacle du mal. Mais, par exemple, tout le monde dit, oh les jeunes, le machin, le... Il n'y a jamais tant eu de jeunes qui s'engagent dans ces ONG. Il n'y a jamais tant eu de belles choses qui se passent à travers le monde. Alors, on est en train d'être fasciné au spectacle du mal et on ne sait pas faire émerger ce qu'il y a de beau. Eh bien, Noël, c'est le temps où on peut faire émerger ce qu'il y a de beau, mais il ne faudrait pas que ça dure que 15 jours.
Voilà. Et puis, je pense que les médias ne sont pas étrangers au fait qu'on est souvent dans le négatif. Parce que...
Sauf à CFM.
Évidemment. Non, on est toujours dans le sensationnel qui plaît, qui attire, qui aime être vu et entendu. Mais en fait, on oublie, et c'est dommage, toutes ces bonnes volontés, on en voit partout. On voit tellement de gens qui ont envie de donner, de faire du bien, de donner de la gentillesse, de donner de l'amour. Ça existe, il faut le dire. Et c'est ça qu'il faut répandre. On ne le fait pas assez, notamment au travers des médias. Enfin, je crois qu'on est incité à partir de Noël, à laisser aller notre cœur, à laisser aller la générosité.
Oui, tu as raison.
J'aimerais entendre Émilie, là, des choses à dire certainement agréables.
Oui, mais vous dites tout, je n'ai pas la place pour parler, vous dites tout.
Allez, on te laisse maintenant, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais nous parler? Alors, de quoi, toi?
Alors, moi, ce qui me tracasse un peu en ce moment, c'est, ben, déjà l'année dernière, on en avait parlé, c'est le problème que posent les crèches dans les lieux publics. Alors ça m'étonne beaucoup. Parce que sous prétexte de république laïque, on voudrait interdire les crèches dans les lieux publics, dans les mairies ou autres lieux. Et ça vraiment, je ne comprends pas, parce que même des gens qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas pratiquants, sont attachés à la crèche, parce que c'est vrai que c'est culturel, mais c'est aussi culturel.
Parlons-en.
On peut en parler. C'est vrai que la crèche, ce n'est plus un symbole religieux maintenant, c'est le symbole de Noël. Que bien des gens... Alors, ça peut avoir cette connotation. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, en famille, on faisait la crèche et on allait faire la prière devant la crèche.
Bon. Oui, mais c'est tellement gênant que ce soit un symbole religieux, même si ça l'était à 100%.
Non, mais ça ne me gêne pas du tout.
Non, je ne parle pas pour toi. Il me semble que c'est respectueux. Si je vois une autre religion qui me donne une image de quelque chose de positif, moi, je serais content de l'adopter et de le fêter avec cette religion.
Oui, parce que la crèche, c'est quand même le symbole de la naissance de Jésus, du Christ. C'est quand même Marie, Joseph, c'est sûr.
C'est la fête de la paix.
C'est la fête, mais ça représente l'amour, ça représente la paix. C'est le symbole de très belles choses. Et pourquoi on voudrait l'interdire dans les...
Parce que si tu veux, c'est une mauvaise conception, à mon avis, de la laïcité. On l'a déjà dit, c'est plus de la laïcité, c'est du laïcisme. Voilà. Mais moi, je veux dire, si on va jusqu'au bout dans le discours de ces gens-là, mais à ce moment-là, qu'on n'emploie plus le mot Noël, qui est lié à une fête chrétienne, qu'on ne prenne plus un jour de congé pour Noël, parce que
mais
c'est une fête chrétienne.
Il faut débaptiser de nombreux villages et de nombreuses villes.
Oui, alors il faut tout débaptiser, et puis voilà. Alors.
Et supprimer le jour férié, supprimer la prime de Noël, et supprimer les illuminations.
On va délirer, là, dans le négatif,
encore une fois. Pour vous rassurer, moi j'avais lu, ça date de 2007, mais voilà ce que j'avais lu. Et je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, je crois que c'était un ministre de l'époque. Le principe de laïcité n'impose pas aux collectivités territoriales de méconnaître la tradition des faits religieux. Tel est le cas de la pratique populaire d'installation des crèches apparue au XIIIe siècle. Donc là, on était dans la souplesse. Parce qu'effectivement, on ne peut pas comme ça... D'un coup de gomme, rayer 2000 ans de civilisation où on a été marqué. Il suffit de voir dans la peinture.
Absolument, mais peut-être qu'on excède en amène un autre. Peut-être que la religion a été trop présente pour certains. Oui. C'était vrai qu'elle dominait beaucoup de choses.
Elle a commis des abus.
Mais voilà, c'est peut-être ce qui a amené, pour ceux qui sont laïcs, qui ne sont pas croyants, ou qui se posent des questions, qui sont agnostiques, peut-être que ceux-là, maintenant, se libèrent de ce qu'ils ont subi pendant de nombreuses années, eux ou leurs prédécesseurs. Mais c'est pas pour autant qu'ils doivent tomber dans l'excès. Je crois qu'on peut être raisonnable et accepter les choses qui ont valeur.
Moi, je crois aussi, mais alors, on pourrait nous rétorquer, ceux qui écoutent cette émission, est-ce que je peux comprendre et entendre tout à fait, mais vous êtes quatre croyants autour de cette table, à discuter, à parler du mystère de Noël. Moi, je dis simplement qu'il ne faut pas s'arc-bouter là-dessus, qu'aujourd'hui, croyant ou pas, la crèche est un des signes de Noël. Voilà, comme tu disais, c'est culturel, et puis, voilà, prenons-le comme ça. Et que la laïcité permet la libre expression de toutes les religions sans l'imposer à personne. Voilà. Alors maintenant, je vois une crèche, j'ai un sentiment religieux, cela peut m'amener à élever mon esprit. Je ne suis pas religieux, je vois une crèche, eh bien, ça me rappelle que je serai en vacances ce jour-là et puis que je ferai la fête avec ma famille. Et puis c'est tout. Voilà. Il faut pas aller plus loin que ça.
Non, mais il est vrai que la laïcité a amené quand même une liberté. Voilà. La liberté pour les autres, et c'était indispensable.
Et il faut revenir vraiment aux ces fondements de la laïcité. Ça, je suis
nous sommes
tout
d'accord.
À fait d'accord. Oui, tout
sûr.
À fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Dans ce domaine à l'inverse.
Voilà. Moi, je voudrais revenir un petit peu au sens de Noël. Vous savez, on dit. Alors, je reviens comme un croyant là. Moi, il y a des choses qui me touchent beaucoup. Tu disais la foi comme l'amour, ça se prouve pas, ça se vit. Mais il y a des choses qui me touchent. Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem et il a été couché dans une mangeoire. Moi, je me dis...
Il démarrait mal, hein.
Il démarrait mal, oui. Moi, je me dis, c'est quand même étonnant. Où les gars, c'était des esprits, ceux qui ont écrit ça et qui ont donné cette tradition, parce que on sait très bien que les évangiles ont été écrits 50, 60, 70 ans après la naissance de Jésus.
Oui, mais il y avait quand même la tradition orale.
Mais il y a eu la tradition orale. Donc, ceux qui ont maintenu cette tradition, où c'était des esprits supérieurement intelligents, ou alors, je sais pas, Bethléem, ça veut dire quoi, Bethléem? Bethléem, c'est la maison du pain. La maison du pain. Donc, voilà, les évangiles nous disent Jésus est né dans la maison du pain. Et comme il est né dans la maison du pain, on l'a couché dans une mangeoire. Certes, une mangeoire d'animaux, peu importe, une mangeoire. Et saint Jean nous dit que Jésus est le pain de vie, celui qui se donne à manger.
Je trouve tout un symbole.
Je trouve que c'est extraordinaire, extraordinaire cette affaire-là. Oui. Surtout que l'évangile de Jean, lui, il est encore beaucoup plus tardif. Il a été écrit bien après. Alors voilà, Jésus naît dans la maison du pain, couché dans une mangeoire, et il est ce pain de vie qui vient nous donner la nourriture pour la vie éternelle et l'amour éternel. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, alors moi je vous le dis comme ça. C'est pour moi pas une preuve, c'est un petit signe qui me fait vivre et qui me fait vibrer un peu.
Non, mais là, redécouvrir les symboles, c'est vrai que c'est important dans la vie de chacun.
Oui. Moi, je me rappelle une anecdote, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Je m'occupais de l'aumônerie de l'enseignement public. J'avais des lycéens un peu fastidieux, un particulièrement, et il a osé téléphoner à tous les hôtels de Villefranche et il leur a dit, vous savez, on a là deux Palestiniens complètement désargentés, la femme, bon, elle est vraiment enceinte, elle est prête à accoucher, on ne peut pas la laisser dehors, est-ce que vous auriez pas une chambre là pour le 25 décembre? Et alors... C'était osé, mais c'était l'actualisation carrément. Alors tous n'ont pas compris, mais il y en a qui ont compris.
Qu'ont-ils fait?
Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. C'était beau.
Je crois que
ça valait le coup quand même de vous rappeler ça. C'est mon ami Stéphane qui avait fait ce coup-là.
Et oui, c'est pour vous dire que la générosité, elle est parfois très pudique. elle est parfois très pudique. Et il y a des gens qui sont d'une grande générosité et qui ne le montrent pas du tout. D'ailleurs, on le sait très bien. Vous savez ce proverbe qui dit que le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, hein, mais le bien ne fait pas de bruit. Et il y a des gens très généreux comme ça qui se donnent, et il y a de très beaux gestes qui se vivent à Noël. Alors si vous voulez, nous allons encore écouter une petite musique avant de continuer.
Mais dis-moi, Didier, que disent les évangélistes sur la naissance de Jésus, sur ces événements ?
Alors, surtout, on s'appuie sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc qui nous parle de la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, il dit qu'il y avait un recensement. Alors d'abord, il essaie de le placer dans l'histoire. Il dit que c'est au moment où Quirinus était gouverneur de Judée. Donc, il veut l'incarner dans un temps précis de la vie des hommes et dans un lieu précis. Et il nous dit que, voilà, il avait ordonné le recensement et que, donc, Joseph devait partir se faire recenser avec Marie qui était enceinte dans la ville d'où il était issu, c'est-à-dire Bethléem, la ville de David. Donc, ce que nous dit Luc, c'est que il y a une filiation avec David. Avec David. Et dans Luc, vous verrez, c'est ça qui est extraordinaire, dans Luc, c'est Marie qui est chargée par l'ange de nommer l'enfant. Dans Matthieu, c'est Joseph qui est chargé de nommer l'enfant. Vous voyez, il y a des petites sensibilités comme ça qui sont liées à la date d'écriture des évangiles et au fait que les évangiles ont été écrits pour des communautés différentes et particulières. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ils arrivent, il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, donc voilà, ils cherchent un homme, et puis elle accouche, et là, il y a des bergers dans les champs. Alors déjà, Jésus, il arrive dans cette humilité, dans cette simplicité. Il n'est pas un roi de palais, il est un roi d'amour, voilà. Et il arrive logé comme ça, naissant et couché dans une mangeoire. Et puis, il y a les bergers. Les bergers, ce sont les tâcherons. Vous savez, les pauvres parmi les pauvres qui travaillaient une journée pour gagner leur pitance, ils sont dans les champs et ils entendent cette révélation, une grande lumière, une grande joie. Courez jusque là-bas, voilà, la grande joie, gloire à Dieu et paix sur terre. Voilà ce qu'on vient d'entendre comme chant. Et les bergers ont cette révélation dans leur cœur et ils courent. Mais voyez, les bergers sont faméliques. Sont faméliques non seulement de biens qu'ils n'ont pas, mais ils sont faméliques de vie, ils sont faméliques d'amour. Et donc, ils vont courir près de cet enfant. Alors que nous, qui sommes gavés de tout, nous n'avons plus de place pour laisser entrer une nouveauté, pour laisser entrer l'amour dans nos vies. Il faut creuser en soi cette fin des autres, cette fin de Dieu, cette fin d'aimer. C'est ce que nous apprennent les bergers, et ils vont courir.
Donc les bergers, ils ont intérieurement perçu quelque chose de fort qui se passait. Ils ont été appelés à aller voir l'enfant Jésus qui était né dans une crèche. Ils ont été conduits. Parlons aussi de l'étoile qui a conduit, les mages qui a conduit.
Oh, l'étoile, c'est la lumière qui nous vient de Dieu, qui nous guide sur le chemin. Tu sais, Jésus dira dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais c'est vrai que tu ne peux pas suivre un chemin si tu n'as pas quelques balises, si tu n'as pas quelques repères, tu vois. Et cette étoile, elle nous mène à la lumière qui est Dieu et qui est couchée dans cette mangeoire. Donc, les bergers, ils reçoivent ce message parce que ils sont désireux d'aimer, ils sont désireux de bonheur, ils sont désireux de vie. Et à partir de là, eh bien, tout s'enclenche. Et cet enfant, eh bien, il va, à la suite de David, inaugurer un royaume de paix, d'amour, mais qui ne sera pas un royaume terrestre, qui sera un grand royaume à l'image du roi David, mais qui sera un royaume d'un autre type, au-delà des temps, des lieux, au-delà des frontières, au-delà des peuples.
Mais là, tu nous parles des êtres simples, mais les savants qui ont été conduits par... Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question.
Pour les mages, tu veux dire.
Alors, non, mais les savants qui sont signifiés par les mages, là.
Oui.
À l'époque.
Alors, on ne sait pas trop. C'est uniquement dans l'évangile de Matthieu qu'on parle des mages qui viennent visiter. On n'en parle pas dans les autres évangiles. Et Matthieu avait ce souci de dire, bien cette naissance de Jésus vaut pour tous les hommes. Ouais. Elle vaut pour tous les chercheurs. Alors, tu es chercheur quand tu manques de quelque chose, ou tu es chercheur aussi parce que tu es savant, parce que tu es une quête de... Et leur quête va être comblée, pas par leur science, mais par cet enfant qui leur est révélé.
Mais par ces deux images très diverses, pour moi elles sont significatives, parce que Dieu appelle tout le monde.
Ah oui, bien sûr.
À la fois les intellectuels et ceux qui sont riches de cœur.
Oui.
On peut être intellectuel et riche de cœur aussi. Mais enfin, lorsqu'on n'a pas le savoir de certains... Le Seigneur aussi tourne son regard vers ces êtres-là, tous sont des enfants de Dieu, c'est ça que ça veut dire aussi.
Exactement, et c'est vrai que Dieu, en Jésus, nous fait un cadeau, d'où le sens des cadeaux de Noël, mais un cadeau est reçu que lorsque tu en manques, lorsque tu as tout et tu possèdes tout, qu'est-ce qui peut encore venir combler un manque que tu n'as pas ? Donc, il faut creuser dans notre vie, je vous dis, ce manque d'amour, ce manque de l'autre, ce manque de paix. Le creuser, et Dieu peut venir le combler. Ou, si on n'est pas croyant, la fête de Noël peut apporter quelque chose, d'où ces rassemblements de famille, d'où tout cela qui est tellement important.
Mais sur les mages qui viennent de loin, donc ça veut nous dire que ça déborde les frontières. Et aujourd'hui, quand on voit les migrants arriver et que beaucoup de pays marqués par le christianisme, je pense à la Pologne qui les refuse, on s'interroge un petit peu là. Qu'est-ce que c'est que ces Polonais qui, au nom de leur foi chrétienne, avaient, avec beaucoup d'audace, renversé le communisme qui les persécutait ? Comment se fait-il qu'ils accueillent pas l'étranger, ce qui est quand même le béaba, l'accueil de l'étranger de la religion chrétienne.
Non, mais ça, c'est le problème est quand même complexe. Il va au-delà du bon vouloir, il va au-delà de ce que l'on voudrait faire. Parfois, on ne peut-être pas faire, et c'est ce que l'on voudrait faire. Bon, il est vrai qu'il faut pas rejeter, peut-être c'est ce que tu reproches, qu'il rejette avant d'essayer de régler le problème.
Oui.
Mais c'est un problème qui est difficile, il faut quand même le reconnaître.
Non, mais
je crois que c'est pas si simple que ça.
Alors, moi je veux bien que ça soit pas si simple. Je vais vous dire une chose, ça veut pas dire que j'y sois totalement converti et prêt, mais l'amour n'est jamais raisonnable. Si on veut tout faire rentrer par la raison, on va vite s'arrêter. Il faut être déraisonnable. Il faut poser des gestes de folie. Et l'amour de Dieu, il est déraisonnable. Et nous avons, si possible, nous aussi, à vivre cet amour déraisonnable de Dieu.
Il faut donc ouvrir notre cœur raisonnablement.
Voilà, donc, hors de la raison.
Je savais que t'allais réagir.
C'est la folie, c'est la folie de l'amour. Voilà, alors maintenant, écoutez, chers amis, on écoute cette émission sur CFM, sur Radio Présence à Figeac. On se retrouve, vous vous retrouvez, je ne serai pas là le mois prochain. Le mois prochain, nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de Noël et de bien commencer l'année dans la mouvance de paix et de tout ce qu'il y a à construire. Voilà. Que la lumière de Noël éclaire tout le temps qui vient en 2016.
Oui, et qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas que les attentats dans la vie, il y a aussi de très belles choses qui se passent dont on ne parle pas suffisamment.
Et ça, on en est convaincu.
Et donc, j'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles, que la COP21 aboutira à quelque chose. Parce que ça, c'est fondamental. Ceux qui veulent pas comprendre ça, ce sont les ennemis
de l'avenir. De la planète, de
tous voilà,
les humains.
De nos enfants.
Et continuez à faire de très belles crèches.
L'heure du carillon, une émission chrétienne ouverte sur le monde.
Dans notre société, le pauvre est considéré comme un problème et plus comme un frère.
Si j'étais un livre, ce serait la Bible. Mais la Bible, ça veut dire bibliothèque.